RFI. Grand reportage. Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui aux États-Unis. Depuis la présidentielle américaine, un débat agite le pays. Faut-il, oui ou non, interdire l'entrée aux musulmans, aux réfugiés et aux migrants? Cette promesse de campagne de Donald Trump se heurte à la justice qui a rejeté deux décrets allant dans ce sens. Demain, nous irons dans le sud des États-Unis, à la frontière mexicaine avec Véronique Guémard. Et aujourd'hui, nous sommes dans le Grand Nord, à la frontière canadienne. L'inquiétude des réfugiés dans le Midwest américain depuis l'élection de Donald Trump, c'est un grand reportage signé Anne-Marie Capomaccio.
Donald Trump appelle à une interdiction d'entrée totale des musulmans aux États-Unis jusqu'à ce que nos élus se rendent compte nom de nom de ce qui se passe.
C'était en novembre dernier, juste avant l'élection qui a porté Donald Trump au pouvoir. Ses déclarations de meeting annonçaient une politique que le président Trump a tenté de mettre en œuvre dès son arrivée à la Maison-Blanche. Une politique qui révolte Jelani Hussein, réfugié somalien et président de l'association CARE du Minnesota, la plus importante organisation musulmane des États-Unis. America's greatest
asset. L'atout le plus fort des États-Unis a toujours été la capacité de débaucher dans tous les pays du monde leurs experts pour les faire venir ici. Ça a toujours été l'arme secrète. Google, Apple, YouTube, Amazon, toutes ces compagnies qui aujourd'hui font les beaux jours de l'économie américaine ont été fondées par des enfants d'immigrés. Steve Jobs était le fils d'un immigré venu de Syrie, un pays qu'aujourd'hui nous salissons et nous bannissons.
Depuis le 20 janvier, deux décrets de Trump ont été bloqués par la justice, car ces textes qui interdisaient de visa les ressortissants de plusieurs pays musulmans ne respectent pas, selon les tribunaux, les principes de base de la Constitution américaine.
Il n'y a pas de logique dans cette affaire, cela n'a aucun sens, autre qu'attaquer et montrer du doigt les musulmans de ce pays. Pour tous ceux qui pensent que nous serons plus en sécurité, c'est faux. Les terroristes utilisent tout ça comme un argument de recrutement.
Nous sommes à Minneapolis, Minnesota, dans l'extrême nord des États-Unis, à la frontière avec le Canada. Une cité dont la légende urbaine dit qu'elle est la deuxième ville somalienne du monde après Mogadiscio. Minneapolis a son centre commercial somalien et les électeurs ont porté Ilhan Omar au Parlement local, la première femme musulmane d'origine somalienne à exercer une fonction élective. Minneapolis et sa jumelle Saint-Paul sont des villes qui ont voté démocrate. La communauté a immédiatement réagi après les décrets Trump, comme l'explique Jeanne Gropman, dont l'organisation est chargée de l'accueil et du placement des réfugiés.
Nous avons eu un élan de solidarité sans précédent de la communauté. L'Institut a reçu des centaines de milliers de dollars car les gens sont en colère. Ils disent « cette administration ne nous représente pas ». Nous avons eu plus de 300 volontaires en 6 semaines. Ils savent ce que les immigrés apportent aux États-Unis. Tout le monde le sait, c'est vieux comme le monde.
Dans les locaux de l'Institut international, toutes les salles sont occupées en ce vendredi matin. Des cours de gestion de budget familial, des leçons d'anglais ou de mathématiques dispensées par des volontaires dont parlait Jeanne à l'instant.
So today we're learning geometry and each table is working at a little bit of a different pace.
Aujourd'hui, nous apprenons la géométrie. Chaque table va à son rythme. Cette table, par exemple, ces deux étudiants n'ont jamais étudié les angles. Cette table-là, ils sont un peu plus avancés.
This table over here, they're a little bit ahead and they're learning how to
Fatia est en cours de géométrie. Elle a décidé de prendre une option maths pour progresser dans sa carrière professionnelle maintenant que les enfants ont grandi.
I'm Oromo and I've been here since 1999.
Je suis Oromo, je vis ici depuis 1999. J'ai choisi de vivre dans le Minnesota et j'aime cette région, c'est une région très agréable à vivre. Mais depuis que Trump est là, ça me fait réfléchir.
Le rire de Fatia cache mal une angoisse que tous partagent. Que va-t-il se passer durant la présidence Trump? La poussée de fièvre anti-musulmane est-elle seulement passagère? Jelani Hussein est en colère. Jeanne Gropman tente de raisonner.
For the first time we're seeing
Pour la première fois, nous voyons la face hideuse du racisme. Je pense que l'élection du président Trump a donné la permission aux gens, non pas d'avoir une opinion raciste, mais d'agir de manière raciste. Les Somaliens sont noirs, ils sont immigrants et ils sont musulmans. Nous sommes la cible de trois racismes différents. Nous avons encore beaucoup de racisme dans ce pays.
Certains pensent que les réfugiés et les migrants ont des bénéfices qu'ils n'ont pas. Et c'est absolument faux. Ils n'ont pas plus que ce qu'ont les citoyens américains. Les gens ne comprennent pas qu'ils ont subi un contrôle qui a duré 18 mois, comme chaque réfugié qui vient ici. Mais dans l'histoire de ce pays, nous avons toujours eu un sentiment anti-immigrant. D'habitude, c'est lié à une crise économique ou une récession. Mais nous ne sommes pas en récession. Et le gouvernement a dépeint un tableau très inexact. Mais les gens disent la même chose des Asiatiques. Je pense que les gens ne connaissent pas ces nouveaux arrivants et ils ont peur.
Dans le quotidien des réfugiés, les réactions d'hostilité sont difficiles à vivre. Abdi Fattah Youssouf est un informaticien attablé dans un salon de thé du centre commercial somalien.
On n'a pas de personne. When John or Elizabeth,
nous ne sommes une menace pour personne. Quand John ou Elizabeth tuent quelqu'un, les gens disent « John a tué cette personne ». Mais si c'est un Mohamed de base qui a peut-être des problèmes psychiatriques, ils ne disent pas « Mohamed a tué cette personne ». Ils disent « C'est un musulman ».
Chaque réfugié, chaque migrant a son histoire à raconter. Tous affirment avoir vécu l'expérience du racisme depuis l'élection de Donald Trump. Hassan Khalid est travailleur social.
Quand je conduis maintenant, j'ai peur. Les gens disent des choses en riant. Ils viennent à votre bureau, au travail, et ils disent « Qu'est-ce que tu penses de Trump ?» Comme pour appuyer sur le sujet, avoir votre avis et en faire un problème. Je vois que la colère est là, des deux côtés, depuis cette élection.
Agression verbale pour Hassan, mais passage à l'acte pour Fardoussou Mohamed. La jeune femme enceinte a été molestée par un inconnu alors qu'elle allait faire ses courses. C'est son voile qui, semble-t-il, a provoqué la colère d'un homme que la police n'a pas identifié.
J'ai eu peur car je ne savais pas s'il avait une arme. Je ne savais pas s'il m'attendait dehors. Je me sens mal, je suis triste. Il a hurlé après moi et m'a dit « Tu ne dois pas t'habiller comme ça ».
L'incident entre guillemets a eu lieu à Fargo, Dakota du Nord, un état qui a voté Trump, à 4 heures de route au nord-ouest de Minneapolis. Des températures polaires en hiver dans cette petite ville non loin du Canada. Aucun problème d'intégration jusqu'à Donald Trump, jusqu'à ce qu'un élu introduise au Parlement local un texte qui donnerait à chaque localité la possibilité d'appliquer sa propre interdiction de visa. Dave Pipcorn est l'un des promoteurs de ce texte.
We are number two in the nation in refugee resettlement.
Nous sommes la ville numéro 2 pour l'accueil des réfugiés en pourcentage. Tout le Dakota du Nord d'ailleurs. Les réfugiés sont envoyés ici, nous n'avons rien à dire et nous sommes obligés de les loger, de les éduquer et tout le reste. Le Tennessee demande le remboursement du coût des réfugiés au gouvernement fédéral et je pense que le Dakota du Nord devrait faire pareil.
Dave Pipcorn, adjoint au maire, en totale opposition avec le premier magistrat de la ville, car Tim Mahoney est clairement en faveur de l'accueil des réfugiés. Pour le maire de Fargo, c'est avant tout une question d'honneur.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ce texte car il sous-entend que les réfugiés nous coûtent cher. Les États-Unis n'accueillent que quelques centaines de milliers de réfugiés alors qu'il y en a des millions dans le monde. On devrait avoir honte. Ils fuient des persécutions et cette loi tente de savoir quel est le coût. Cela sous-entend qu'il coûte trop cher.
Des raisons morales pour le maire Tim Mahoney et des raisons plus pragmatiques aussi.
Le taux de chômage dans le Dakota du Nord est aujourd'hui de 2,2%. Nous avons 5000 emplois à pourvoir juste dans la ville de Fargo. Donc nous avons besoin de main-d'œuvre, nous avons besoin que des gens viennent ici. Ils ne prennent pas le travail de qui que ce soit, ils font le travail que personne ne fait.
À Fargo, on ne parle que de ce texte de loi anti-réfugiés. Les pour et les contre se sont fait face lors d'une session extraordinaire du Parlement à Bismarck. Les rumeurs les plus folles ont été lancées, notamment sur les maladies que transmettent les étrangers. La télévision locale s'en est fait l'écho.
Êtes-vous pour ou contre l'installation de réfugiés dans la région de Fargo? 57% d'entre vous se prononcent contre. Et la raison numéro un pour le refus des réfugiés est « pas chez moi ». Ils devraient aller ailleurs.
Que se passe-t-il dans le Dakota du Nord, un État dont toute l'Amérique vante l'hospitalité? Amida Dakane, étudiante kényane, en passe d'obtenir la nationalité américaine, est très en colère contre Dave Pipcorn.
Je veux lui demander de se baser sur des faits réels. Il faut qu'il nous donne des statistiques et des faits qui montrent que les nouveaux arrivants causent des problèmes. Nous avons besoin de faits, pas juste de paroles. Je ne sais pas où il prend ces chiffres. Je ne sais pas quelles études il cite, mais nous voulons voir.
Dave Pipcorn s'explique. Sa crainte, dit-il, c'est l'intégration impossible de réfugiés qui n'auraient pas le désir de vraiment devenir américains.
J'ai le sentiment que les migrants veulent seulement savoir ce que nous pouvons faire pour eux. Et je pense que ce n'est pas la meilleure approche. De génération en génération, ça va poser des problèmes. C'est une question d'assimilation. Si vous voulez venir ici et devenir américain, c'est ce que nous recherchons. Mais beaucoup de réfugiés veulent seulement les bénéfices sociaux et avoir leur propre pays dans notre pays. Et ça ne marche pas comme ça.
Le non-dit, c'est la deuxième génération. Un sujet dont Dave Pipcorn et ses partisans ne souhaitent pas parler au micro. Cette faction anti-étrangers estime que si certaines familles de réfugiés ont trouvé un asile légitime aux États-Unis, le risque vient de la deuxième génération. Il rappelle les cas de jeunes d'origine somalienne qui sont partis, voilà 5 ans, se joindre au Shebab pour commettre des attentats. Jane Gropman balaie ses craintes. Cette peur relève du fantasme.
L'Institut catholique, qui est une organisation conservatrice, a fait une étude. Vos chances d'être agressé par un réfugié sont 1 sur 3,6 millions. Vos chances d'être agressé par votre voisin sont 1 sur 150 000. La première génération de migrants a un taux de criminalité inférieur à celui de la population américaine. Ça change avec la deuxième génération. Leur taux de criminalité est le même que celui des Américains.
L'Amérique vit-elle une crise d'identité alors que l'économie se porte bien, surtout dans cette région nord du pays, dans le Minnesota et le Dakota du Nord? Un vote protestataire a certes porté un candidat populiste au pouvoir, mais pour les réfugiés, c'est un véritable séisme dans une vie qui n'a pas été facile.
Voilà 20 ans, quand j'ai commencé à travailler sur ce dossier, les gens avaient passé 2 ou 3 ans dans un camp. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 20 ans. Les gens qui arrivent ont été dans des camps pendant 2 décennies.
Les réfugiés qui se sont établis aux États-Unis ne veulent pas se plaindre. Il faut insister pour qu'ils acceptent, comme Hun Kun, de raconter leur histoire.
Je suis originaire de Somalie. Je suis venu ici pour rejoindre ma mère après 15 ans de séparation. Un jour, elle a appelé quelqu'un en Somalie. Elle nous cherchait. Elle a dit, je suis à Fargo, dans le Dakota du Nord. Vous devez aller à Nairobi. En Somalie, vous savez, nous avons une guerre civile depuis 25 ans. Nous étions 14 enfants. Elle s'est dit, je vais essayer de survivre avec les plus grands. Et elle nous a laissés, les plus jeunes, avec ma grand-mère. Puis elle nous a rejoints avec les grands au Kenya, dans le camp de réfugiés de Dadaab. À cette époque, il n'y avait pas de portable pour communiquer. Elle a fait des demandes de visa pour nous tous et nous sommes venus ici.
Patrick et son frère viennent de RDC. Eux aussi ont créé leur société Bonjour Fargo. Son français est rouillé, mais Patrick tient à s'exprimer dans sa langue maternelle pour transmettre un message à ceux qui, au loin, sont tentés par l'aventure américaine.
Les États-Unis, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est l'opportunité. Tu peux devenir ce que tu veux devenir si vous travaillez. Ici, il y a les choses que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que si on vit, c'est des États-Unis. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses. La vie, c'est bien, c'est bon, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est toi-même qui vas faire votre vie bien. Mais l'Amérique, ça ne change pas. C'est la personne qui change.
Patrick avait à peine 10 ans quand, avec son grand frère et sa jeune sœur, il est arrivé aux États-Unis, voilà 17 ans. Trois enfants livrés à eux-mêmes, un périple terrible de Bukavu vers un camp de réfugiés au Kenya. Puis les trois enfants seuls ont été envoyés aux États-Unis, recueillis à leur arrivée par les Blancs de Fargo, comme Patrick le raconte. Aujourd'hui, après cette aventure, il a le sentiment que tout est possible.
Si vous regardez les vies des tombes, c'était les réfugiés comme nous. Il est venu ici, les parents sont venus ici, et puis fait le business, marcher, les trucs comme ça. Et puis maintenant, il devient président. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? On peut être président un jour.
Aucun réfugié, aucun migrant ne veut revenir sur les premiers mois à Fargo. On parle en riant du froid polaire qui surprend, de la langue qu'il faut maîtriser et de l'alimentation étrange des Américains. Hassan estime que l'adaptation est bien plus longue qu'il n'y paraît.
Statistically, I would say between 3 to 5 years.
Statistiquement, je dirais qu'il faut 3 à 5 ans, car pendant les premières années, il faut apprendre la langue. C'est compliqué de s'adapter entre ce que les gens avaient chez eux et ce qu'ils trouvent ici. À part ça, je dirais que pour être prêt à intégrer une entreprise pour un bon boulot à Fargo, c'est 3 ans minimum.
Aujourd'hui, ces réfugiés se sentent américains, et c'est d'après Jelani Hussein ce qui fait peur.
Le problème ici, dans le Midwest, c'est qu'ici, dans le Minnesota et le Dakota du Nord, il n'y avait pas de Noirs. Il n'y avait pas de Noirs dans le Minnesota et le Dakota du Nord jusqu'aux années 90. C'était les États les plus blancs du pays, 87% quand ma famille a migré ici. En 20 ans, la population s'est mélangée et ils ont peur de ça. Ils ont peur de la seconde génération, car cette génération a confiance en elle, assez pour résister à l'agression et au racisme. Ils sont américains, ils parlent la langue et ils peuvent se mettre en face de vous et vous dire « Comment osez-vous me parler ainsi? Vous êtes venu ici comme moi. »
Chaque communauté est un cas particulier. Minneapolis et Saint-Paul, deux villes sanctuaires où les élus ont promis de protéger les réfugiés et les migrants. Fargo en crise où un groupe de nationalistes tente de fermer ses portes aux étrangers. Le climat a changé, l'inquiétude est réelle, exacerbée depuis l'élection de Donald Trump, avec pour certains, comme Unkun, le sentiment de ne plus être bienvenu dans un pays dont il espère tant.
Si tu as peur de moi, viens, assieds-toi près de moi. Parlons, je te raconterai mon histoire, tu me raconteras la tienne. Dis-moi de quoi tu as peur. Si tu as des questions, demande-moi. Je te poserai les mêmes questions. Dialoguons. Je suis celui qui devrait avoir peur, car je suis venu dans un monde nouveau pour moi. Je ne sais rien de lui. Je ne sais pas comment me comporter. Je suis celui qui doit avoir peur. Mais je n'ai pas peur. J'essaie de m'intégrer, de savoir comment me faire des amis, aller à l'école, comment trouver du travail. Celui qui doit avoir peur, c'est moi. Et moi, je fais de mon mieux pour m'intégrer à cette communauté.
Grand reportage, le blues des réfugiés dans le Midwest américain, Anne-Marie Capomaccio, réalisation Sandrine Strara.